Vous avez un autre chapitre, on ne va pas tous les prendre, mais qui réfléchit sur le privilège donné actuellement au spirituel sur le religieux. Comment vous analysez cette préférence, cette envie de sortir d'une religion contraignante au bénéfice d'une marchandisation de toutes les spiritualités possibles dans lesquelles on va picorer pour faire son marché?
C'est aussi une chose qui me frappe, effectivement. Le système religieux traditionnel qui était encore en place dans les années 60, en se démantelant, je dirais, la quête de sens, la quête de consolation, la quête de ritualisation de l'existence qui faisait le fond de la demande religieuse n'a pas disparu pour autant. Elle s'est donc transformée et elle s'est transférée. Elle est passée dans toutes sortes de secteurs de la culture contemporaine, où nous autres historiens, on peine un peu parfois à la suivre et à la repérer, c'est-à-dire à se dire « mais ça fait partie de notre sujet, en fait, ça n'a pas l'air, ça n'y ressemble pas », alors quitte un peu peut-être à avoir une approche trop globale, un peu attrape-tout, parce qu'au fond, à ce compte-là, il y a du spirituel dans tout. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos contemporains opposent volontiers la spiritualité à la religion. La spiritualité, c'est bien. La religion, c'est souvent dans leur esprit synonyme d'institution, de dogme, de pratique obligatoire, voire de violence et de crime. Et maintenant, Dieu sait qu'ils ont de quoi alimenter leur prévention dans ces domaines. Donc l'opposition qui est devenue banale dans la culture contemporaine, spiritualité-religion. Alors il y a un certain nombre de gens qui sont indifférents ou athées, mais je crois dans l'esprit du temps, il y a une demande, une soif spirituelle qui est forte et qui passe effectivement, qui passe surtout par le développement d'une immense littérature. Les éditeurs dits de spiritualité se portent très bien. Moi, je m'efforce, quand je prends le train, dans un relais H, je lis, j'achète ces bouquins de psy, de sociologue, je peux vous dire que je me fais rembourser par mon laboratoire parce que... Mais quand même, parce que nos contemporains, c'est ça ce qui les intéresse, c'est ça ce qu'ils lisent, donc il faut aller voir ce qu'ils lisent. Bon. Donc là, il y a quelque chose. Le caractère très topique dans la culture contemporaine de la figure de la méditation, depuis ses formes les plus séculières jusqu'aux formes bouddhistes les plus authentiques, mais il y a toute la gamme, hein. En tout cas, c'est devenu un carrefour vraiment de la spiritualité contemporaine. Je signalais cet intérêt gigantesque pour les expériences de mort imminente. Il faudrait faire une cartographie un peu précise de ces croyances, les dater, parce qu'on dit nouvelles croyances. Les sociologues disent nouvelles, mais elles ne sont pas toujours nouvelles. Elles ont des dates différentes. Il y en a qui sont très anciennes, d'autres nouvelles, d'autres renouvelées. Il faudrait faire une chronologie un peu précise de tout ça et dresser la carte. Parce que c'est ça, la matrice, c'est ça maintenant. Ce n'est pas le catholicisme, c'est ça la matrice. Le catholicisme est devenu et un acteur du champ spirituel, avec de longues traditions. Mais désormais, il y a cette énorme littérature qui me paraît... alors la question, c'est qu'est-ce que ça va devenir? C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement... le supplément d'âme de la société matérialiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de remplir son caddie, ne serait-ce que parce que de temps en temps, on a un drame dans notre existence, on perd pied, et à ce moment-là, je dirais, on est rattrapé par l'essentiel, ou rattrapé par l'axial. Est-ce que c'est simplement, je dirais, le supplément d'âme de la société matérialiste, il faut bien, et puis peut-être parce que pour avoir une vie un peu complète, on a besoin aussi de cette dimension? Ou est-ce que cette littérature est susceptible, qui correspond un peu, je dirais, à une sorte de religieux réduit à l'état gazeux ou liquide, faute de dogme, d'institution, de pratique, est-ce que c'est potentiellement, je dirais, le magma à partir duquel un univers religieux en dur, ou plusieurs univers religieux en dur, pourraient renaître? J'en sais rien, mais je serai théologien, je suivrai ça, parce que notre histoire religieuse n'est pas terminée, notre histoire spirituelle n'est pas terminée, mais elle emprunte des voies complètement nouvelles de ce genre. Et cette littérature est gigantesque. Et on n'a pas, je dirais, probablement dans l'Église, même le courage de la lire, parce que c'est vrai qu'elle vous reste sur l'estomac. Hein. mais comme la littérature de piété du 19e siècle. Moi, j'ai souvent lu de la littérature illisible. Et la littérature de piété du 19e siècle, il faut la lire. Hein. Et personne ne la lit, d'ailleurs. Plus personne ne la lit. D'ailleurs. C'est pour ça qu'on a des idées très arrêtées sur son compte. Personne n'a le courage, en fait, de la lire. Et pourtant, c'est là que ça se passe. Parce que nos contemporains, comme les hommes du passé, étaient là. C'est là que ça se passe. C'est là que la quête spirituelle contemporaine se joue.
Après ces quelques chapitres qui continuent le premier ouvrage en analysant des cas particuliers d'évolution, vous en venez à ce que je considère comme trois chapitres qui essaient de catégoriser un peu ce qui a été dit auparavant. Et dans un premier temps, à travers une opposition que vous dites à la fois utile mais dangereuse dans l'Église, l'opposition entre identité et ouverture. Vous dites que cette opposition est souvent manipulée. On parle de chrétiens qui cherchent l'identité chrétienne et de chrétiens qui cherchent plutôt l'ouverture. Et vous analysez cinq caractéristiques qui ont engendré cette opposition: un catholicisme minoritaire, un catholicisme de transmission faible, un catholicisme qui est exculturé, un catholicisme marqué par le déclin des cathos de gauche, un catholicisme marqué par la montée de l'islam. Enfin, c'est ce que j'ai repéré comme caractéristique de cela. Est-ce que vous pourriez un peu développer pourquoi vous dites que cette opposition est à la fois utile mais dangereuse dans la mesure où elle est trop caricaturale? L'opposition entre chrétiens d'identité et chrétiens d'ouverture est insuffisante.
Oui, il faut s'expliquer. On peut l'utiliser, mais il faut expliquer ce qu'on entend par là. D'abord parce que c'est un peu... autant tout le monde est d'accord, je crois, pour être considéré comme un chrétien d'ouverture, autant personne n'a très envie d'être désigné comme chrétien identitaire ou d'identité, sauf peut-être quelques supporters d'Éric Zemmour, mais en dehors de là, je veux dire, c'est un peu un nom d'oiseau. C'est-à-dire que cette affaire de christianisme identitaire, c'est un peu généralement les chrétiens dits d'ouverture qui catégorisent le parti d'en face en l'appelant christianisme identitaire. Ça veut pas dire qu'ils ont tort, à la limite, les chrétiens d'ouverture considèrent qu'ils n'ont pas d'identité, sinon que l'ouverture est précisément leur identité. Voilà. Donc tout va bien. Alors, je dirais, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc il s'agit de savoir sur à quoi on est ouvert et à quoi on est fermé. Il s'agit au fond de dresser pour chaque courant son échelle de transaction avec la modernité. Qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il refuse, de quoi il s'accommode. Bon, donc il faut, je dirais, quitter l'échelle un peu stratosphérique, qui est aussi l'échelle des noms d'oiseaux, pour descendre dans les questions précises, en disant, alors ça, tu prends pas, jusqu'à quel point tu prends, moyennant... Bon. Donc on dresse des échelles de transactions et on y voit un peu plus clair. Alors, il n'empêche que, moi je crois qu'effectivement, ce que les sociologues contemporains appellent la montée des courants identitaires dans le catholicisme contemporain est une réalité. C'est une réalité. Là encore, il faut savoir de quoi ou de qui on parle. Est-ce qu'on parle du noyau dur? Est-ce qu'on parle des pratiquants? Est-ce qu'on parle du Français sur deux qui, bon an, mal an, encore dans les enquêtes, se reconnaît comme catholique selon la manière dont on lui pose la question? Vous savez que ces pourcentages, ça dépend souvent de la formulation de la question. Donc ça dépend. Si je raisonne sur 50% des Français ou sur les 1,5% de Français qui vont à la messe tous les dimanches, parce que la dernière enquête quantitative avait donné 1,8, mais c'était avant le Covid et la SIAZ. Donc à mon avis, on a décroché de façon très spectaculaire. Simplement, quand vous décrochez à 2%, même si vous décrochez de 15 ou 20%, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit aussi le problème des échelles. Hein. C'est quand vous passez sous la barre, en fait, il peut vous arriver un tremblement de terre, décrocher de 20% de la pratique ou de 30% de la pratique. C'est à peu près ce qui s'est passé avec la Révolution française. Hein. Moins 20, moins 30. Bon. Vous pouvez en 6 mois baisser de 20 ou de 30. Et c'est même pas un événement, personne n'en parle. Bon. Parce que de fait, en effectif absolu, c'est plus un événement. Mais en proportion, ça reste un événement. Bref. Donc il y a bien, à mon avis, une montée de ces courants identitaires pour les diverses raisons que j'essayais de lister. Il y en aurait probablement d'autres. Voilà. Donc il est certain qu'il y a un changement de format spectaculaire du catholicisme. Et que les causes que vous indiquiez, la crainte de l'islam...
C'est vous qui l'avez dit. Je n'ai fait que reprendre.
Oui, oui. norme que je maintiens, c'est-à-dire que le fait que effectivement le catholicisme a des courbes très déclinantes, alors que l'islam a des courbes montantes, et que par conséquent il va se produire un jour, il s'est déjà produit probablement un croisement des courbes de ferveur, c'est-à-dire entre catholiques attachant beaucoup d'importance à leur religion et musulmans déclarant attacher beaucoup d'importance à leur religion, il s'est probablement déjà produit il y a 10 ou 15 ans un croisement des courbes de ferveur. Je laisse de côté la question de savoir c'est quoi la ferveur pour les chrétiens, c'est quoi la ferveur pour les musulmans, parce que moi j'en discutais avec mes étudiants à Créteil, musulmans ou chrétiens, je vois bien qu'on parle pas de la même chose. Donc c'est évidemment, c'est toujours pareil, la stat, quand on regarde l'indice de très très près, il vous glisse des mains et vous savez plus ce que vous comptez. Donc il ne faut pas le regarder de trop trop près. Mais donc croisement des courbes de ferveur entre catholicisme et islam, vous savez, le côté un peu politiquement très sensible de ce sujet aujourd'hui, le thème du grand remplacement, le fait qu'un candidat comme Zemmour ait un staff de catholiques traditionnalistes autour de lui, un juif berbère, un croyant avec des traditionnalistes autour, ça fait quand même des paroissiens un peu pas banal. Mais je dirais c'est quand même le signe qu'il y a une inquiétude de ce côté-là, notamment dans une partie du catholicisme. Le changement de format aussi est important, le fait que les milieux, ça j'en ai souvent parlé, même si c'est un peu désagréable à entendre pour beaucoup de gens, mais le fait que les milieux, je dirais, les courants les plus conservateurs ont eu généralement des taux de transmission de la foi meilleurs que les courants plus progressistes, et que par conséquent, à deux ou trois générations plus tard, ils reprennent la main dans l'institution, ne serait-ce que parce que c'est eux qui continuent à produire les quelques vocations subsistantes. Il y a une chose qui me frappe, par exemple, l'aristocratie française, c'est 0,2% de la population, c'est peut-être 10 ou 15% des vocations sacerdotales. Ah. Il y a des milieux qui défendent leur couleur, dans lesquels la transmission fonctionne, et d'autres non. Autrement dit, sur deux ou trois générations, les milieux libéraux, les milieux progressistes ont généralement des taux de transmission de la foi qui sont moins bons que la partie d'en face. C'est pas simplement vrai en catholicisme, c'est aussi vrai chez les protestants, c'est vrai chez les juifs, c'est vrai chez les musulmans. C'est-à-dire que pour des raisons dont on pourrait discuter. Et par conséquent, il est évident que dans le dialogue un peu conflictuel et tendu qui oppose, disons, milieu identitaire et milieu d'ouverture, le catholique identitaire dit à la partie d'en face, évidemment, vous êtes formidable, ouvert, sympathique, le monde extérieur vous aime bien, mais vous avez un bilan pastoral calamiteux, un bilan familial calamiteux. Donc si vos solutions sont les bonnes, commencez par en faire la preuve dans vos familles, et puis quand on aura un bon bilan micro, on appliquera les bonnes solutions à l'échelle macro. C'est imparable comme raisonnement. Autrement dit, cette différence des taux de transmission dans les courants a fini par changer le rapport de force en interne dans le noyau dur, assez logiquement. Donc il y a diverses raisons comme ça qui font que il y a une montée des courants identitaires. Alors, moi j'ai souvenir à la fin de sa vie de René Raymond, vous vous souvenez de René Raymond qui était une institution française, il s'inquiétait beaucoup de ça, il disait les catholiques français, ils vont avoir beaucoup de mal à devenir minoritaires sans redevenir sectaires. Ça va être compliqué pour eux, compte tenu de leur long passé intransigeant, dont le Concile les avait délivrés, ou l'action catholique depuis les années 30, mais peut-être pas tant que ça, au fond. Quand ils vont changer de format, quand ils vont devenir minoritaires, on va voir remonter en interne des courants identitaires très forts, c'était pas mal vu. À ceci près que, là où je le suis moins, paix à son âme, c'est que moi, il me semble que si le catholicisme français devient très minoritaire dans ce pays, comme toute minorité, il devra avoir une identité forte s'il veut subsister. Toutes les minorités qui durent ont des identités fortes. Voilà. Les protestants, les israélites, jadis dans la France du 19e ou du début du 20e siècle. Donc les catholiques n'échapperont pas à cette règle. C'est-à-dire qu'il leur faudra une identité forte. Donc le problème, ce n'est pas avoir ou ne pas avoir une identité. Il en faut une, et autant qu'elle soit fièrement portée. La question, c'est comment, mais je suis bien content de ne pas avoir à le piloter, comment piloter ce recentrage identitaire nécessaire sans que ça se fasse au profit de la fermeture et pas d'un rapport, je dirais, ouvert, mais ouvert à ce qui mérite d'être accueilli et fermé au reste. Il n'y a pas de raison de bénir la modernité les yeux fermés dans tous ces aspects. Voilà, ce qui est compliqué, c'est de faire le discernement. Mais voilà. Donc, je pense que la problématique identitaire, elle est très présente. Pas simplement parce que ces courants identitaires sont peut-être moins subclaquants que la partie d'en face. C'est pas qu'ils soient très en forme, parce que je vois pas que la société française soit très séduite par les formules traditionnalistes. Hein. Mais simplement, le noyau dur se reproduit spirituellement assez bien et a une démographie d'ailleurs assez vivante. Pas mal d'enfants, divorcent plutôt moins que les autres. Voilà, donc tout ça fait que le milieu est assez vivant. Mais on ne fera pas l'économie d'un certain recentrage identitaire. Je pense qu'on ne peut pas. En devenant une minorité, il y a un recentrage identitaire qui se produit mécaniquement.
Il y a de quoi penser. Vous avez d'autres catégories, mais on ne va pas les examiner maintenant parce que le temps passe et je voudrais arriver assez rapidement à vos deux derniers points, des catégories comme l'opposition entre service et annonce, entre conservation et conquête, enfin toutes ces catégories que vous examinez vers les derniers chapitres. Il y a quand même le tout dernier chapitre que je trouvais assez succulent quand vous examinez la façon dont les conflits se résolvent dans l'Église. Vous donnez, si j'ai bien compté, quatre façons de liquider un conflit entre la hiérarchie et les fidèles ou entre des groupes de fidèles entre eux. Il y a ou bien la vieille thèse, je crois être jésuite à l'origine, la thèse et l'hypothèse, ou bien ensuite la dialectique, plus hegelienne, une situation d'équilibre, une critique et ensuite une refonte qui tient compte de la critique en intégrant la position d'origine, un parfait hegelianisme, ou bien alors, j'ai beaucoup aimé l'expression du caisson noyé, c'est-à-dire on enterre le problème et on attend que ça se passe, troisième solution donc, ou bien alors la quatrième distinction que l'on voit fréquemment utilisée en ce moment, la distinction entre le pastoral et le théorique. C'est vrai en théorie, mais pour des intérêts pastoraux, on va évoluer. Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire sur ces quatre catégories, ces quatre façons de caractériser les conflits à l'intérieur de l'Église catholique qui me semblent assez succulentes?
Oui, ou façons pour la doctrine catholique d'évoluer, ou les positions catholiques d'évoluer. C'est-à-dire que le catholicisme évolue beaucoup, les historiens ne peuvent pas ne pas enregistrer ces évolutions, même là où il prétend ne pas évoluer, il évolue. Mais il pense rarement sa philosophie du changement, c'est-à-dire qu'il change sans trop le dire, et moins encore en produisant une théorie du changement. Alors, moi j'ai essayé un peu de le faire modestement, mais de façon inductive, en prenant des dossiers sensibles dans l'histoire de l'Église catholique, en essayant de voir à partir de quand la question est apparue, comment est-ce qu'elle a été traitée dans un premier temps, comment est-ce qu'elle a évolué, et quelle issue on lui a trouvée. Quand on lui a trouvé une issue. Parce que parfois, l'issue est précisément de ne pas en avoir. Parce qu'on n'arrive pas, en fait, à régler le problème. Les paramètres sont trop nombreux, trop compliqués. Et du coup, c'est ce que j'ai appelé la stratégie du caisson noyé. Vous voyez, dans un navire de grande taille qui coule, où il y a des caissons, si la coque est percée, vous fermez le caisson, et puis la coque se remplit, et puis vous n'allez plus y voir. Voilà. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, penser par exemple à la question de la contraception, justement la question sensible d'Humanevitae 68, qui est d'une certaine façon une question réglée, je crois, pour beaucoup de gens aujourd'hui, y compris pour un grand nombre de chrétiens, sauf peut-être effectivement d'un certain nombre de milieux bien spécifiques. Mais elle est réglée non pas parce que les chrétiens auraient fini par se convaincre que Paul VI avait eu raison en juillet 68, de prendre ses positions un petit peu raides, mais parce que la norme est à la fois maintenue dans le discours officiellement, ou en tout cas dans les catéchismes, ce qui est encore différent, et violée tranquillement, sans même qu'on en ressente une forme de culpabilité. Ça, pour moi, c'est vraiment le stade ultime de la décomposition d'une norme, c'est quand vous la violez sans même sentir le viol. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sensation. Et on en est là, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dossiers qui, faute d'avoir été traités dans la fenêtre de tir, qui était le moment où ils auraient dû l'être, en fait trouvent des solutions pratiques. C'était la philosophie du docteur Queuille sous la 4e République, hein, le docteur Henri Queuille, il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par régler. Donc dans l'Église, on pratique souvent cette philosophie, et on comprend bien pourquoi, ne serait-ce que parce que comme on n'est pas d'accord entre nous C'est aussi ça, c'est que c'est très difficile de gouverner au centre une institution où il y a une diversité d'opinions très très forte, et si vous prenez une mesure au milieu, vous allez mécontenter tout le monde. Bon, donc la tentation est très très forte, dans l'Église comme dans beaucoup d'autres institutions, de ne pas régler les problèmes, donc de les laisser s'accumuler, ce qui est peut-être une bonne solution à court terme. Mais à force de s'accumuler, les dossiers réglés par la stratégie du caisson noyé, à force de noyer les caissons, vous pouvez couler, quoi. Il y a un moment... surtout, vous êtes complètement disqualifié culturellement. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, voilà, vous vous faites enfoncer par la modernité à jet continu, vous fermez les caissons, vous êtes, au fond, vous êtes débordé. Donc ça ne me paraît pas être une très, très bonne politique à long terme, à moyen terme, mais je conçois qu'elle soit tentante. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de tout. Il y a des dossiers qui ont des belles dialectiques. La question de la liberté de conscience ou la liberté religieuse, si on veut, dans l'Église catholique, quand on l'étudie depuis l'émergence du problème, disons, à la fin du XVIIIe siècle et le Concile Vatican II, très belle trajectoire. Compliqué, avec des temps morts, des blocages, mais qui finit par trouver dans la déclaration du Concile sur la liberté religieuse une très belle solution. Voilà, ça c'est de la belle dialectique historique. Donc il y a des dossiers qui vont à leur solution, et puis il y en a d'autres qui sont bloqués, et puis il y a les cas intermédiaires où effectivement on règle pastoralement un problème qu'on ne peut pas régler sur le fond. On trouve des solutions... pastorale, et puis la doctrine, on la laisse un peu se nécroser dans son placard.
Alors, il y a une conclusion à votre ouvrage, et je voudrais quand même bien que nous ayons passé déjà beaucoup de temps à deux, il y a beaucoup de temps à passer encore avec tout le monde. Et dans ce dernier chapitre, vous donnez vos solutions, vous avancez quelques pistes possibles d'avenir du christianisme proprement dit. Et je trouve que ce chapitre est spécialement intéressant pour nous ici au passage, parce que vous préconisez un christianisme culturel. Alors, j'aimerais bien comprendre un peu mieux, parce que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ce que vous visez par culturel, parce que d'une certaine façon, dans des chapitres antérieurs, vous avez critiqué le christianisme qui s'en tient à des positions politiques, qui s'en tient à des positions extérieures, un christianisme qui ne prend pas assez en compte la foi proprement dite vécue de l'intérieur. Et vous préconisez là la défense d'une certaine tradition, si j'ai bien compris, hein, dans laquelle on privilégierait surtout, je prends quelques-unes des six caractéristiques, l'identité, on en a parlé, la sociabilité, l'esprit critique à l'égard des institutions, l'altruisme, parce que vous n'utilisez pas le mot, mais j'aime bien prendre le mot de paresia, la résistance aux intempéries et aux difficultés d'existence, et l'intensité du sentiment d'exister. Vous dites que, si j'ai bien compris, que dans la mesure où les chrétiens vivront ces différentes formes d'humanité, au fond, de culture profondément chrétienne, ils seront véritablement une Église et qui ouvrira à la foi. Est-ce que j'ai bien compris ou pas ?
Alors, on m'en a souvent parlé de cette affaire de catholicisme culturel, parce que il y a plusieurs choses. Il y a à la fois un constat, c'est-à-dire qu'à la fois la pratique qui était l'indice autrefois un peu dominant de la sociologie du catholicisme, bon, la pratique s'est effondrée. On est à moins de 2%. Ok. Donc si le catholicisme c'est les pratiquants hebdomadaires, c'est plus grand-chose. Mais il n'empêche que dans ce pays, il y a encore presque un Français sur deux, toutes générations confondues, qui se considère comme catholique. Qu'est-ce qu'il entend exactement par là ? J'en sais rien, mais dans les enquêtes, en déclaration d'identité, on en est encore là. Bon. Chez les jeunes, on n'en est plus qu'à 23%. Hein. Ça veut dire que la réduction, c'est-à-dire que c'est une situation de transition. Ça diminue très très vite. Il y a encore, toutes générations confondues, en gros 50% de Français qui se considèrent comme catholiques, il n'y en a plus que 20 ou 23% pour les 16-29 ans. Bon. Donc la réduction n'est pas terminée, mais il reste une déclaration catholique assez importante. Et puis, quand vous allez dans d'autres enquêtes, ça m'a frappé dans une enquête du journal du dimanche il n'y a pas longtemps, qui montrait qu'on posait aux Français la question « Considérez-vous que ce pays est un pays de culture chrétienne ?» Et ils répondaient « Oui » à presque 80%. Alors vous allez me dire « C'est un simple constat historique. Oui, ce pays est un pays de culture chrétienne. » Mais on sent bien, et dans la question et dans la réponse, qu'il y a un peu plus que ça. qu'il y a probablement une certaine inquiétude devant la montée de l'islam et de l'islamisme, sous-entendu que les musulmans se rappellent que ce pays est un pays de culture chrétienne, mais il y a aussi une forme d'attachement, je pense, persistant à une certaine culture catholique, à un certain catholicisme qui reste assez largement répandu en dépit des événements récents et qu'on a peut-être pu apercevoir avec toutes ces ambiguïtés ou ces ambivalences dans l'émotion collective qui s'est emparée du pays en avril 2019 devant Notre-Dame en flammes. Vous voyez, là, Notre-Dame, l'église par excellence, tout ce que ces murs de nos églises auxquels nos contemporains sont très attachés, hein, les murs des églises, hein, dans les conseils municipaux et autres, même les laïcards les plus forcenés n'hésitent pas à faire des chèques pour qu'on maintienne les murs des églises. Voyez. Et ce n'est pas juste du patrimonial au sens le bâtiment, c'est un peu plus que ça, il y a plus que ça. Autrement dit, mon constat c'est ça, c'est de dire il y a quand même un certain catholicisme culturel persistant dans ce pays, simplement ce qui est sûr c'est que compte tenu de ce que nous sommes devenus et de la situation qui est la nôtre, cette culture ne pourra persister que si elle est régénérée d'une manière ou d'une autre par la croyance, la pratique et les comportements qui l'ont engendrée. Ce qui est sûr, c'est que, je crois que c'est vraiment la leçon de notre décrochage à nous, et nous sommes peut-être dans la deuxième ou la troisième génération du décrochage, c'est qu'une culture de genre, pour tenir dans la durée, ça doit, à un moment ou à un autre, vous-même ou un autre, alimenter, ressourcer cette culture. Voilà, ça peut pas, j'allais dire, à mon avis, le christianisme peut survivre une ou deux générations à l'extinction des pratiques et des croyances qui l'ont engendré, mais pas plus. Après, soit vous le relancez, soit il disparaît. Et donc, mon affaire, c'est de dire aux Français, à ce Français sur deux qui a l'air d'y tenir encore, peut-être même à ces quatre Français sur cinq qui ont l'air de dire que c'est vrai qu'on vient de là, prenez vos responsabilités, parce que au fond, c'est votre problème. C'est pas le problème des curés, a fortiori des curés pédophiles ou autres, c'est votre problème à vous. C'est le problème de vos familles. Ça vous vient de vos grands-mères, c'est la prière de vos grands-mères. C'est votre histoire. Et cette histoire, c'est une tradition, si on veut, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire un ensemble de ressources personnelles et collectives qui sont activables dans une situation qui l'exige, si vous avez fait l'effort de les installer au préalable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas installé la tradition dans le cœur et l'esprit de vos enfants et vos petits-enfants, alors elle ne sera pas utilisable. Mais c'est la culture comme tradition, au sens fort du terme, non pas ce qui reste quand tout le reste a disparu ou quand l'essentiel a disparu, c'est-à-dire que la foi, la pratique et les comportements, il reste un peu des souvenirs historiques et un peu de culture, ça peut être ça, la culture. Et c'est probablement ça, la culture chrétienne, pour un certain nombre de nos contemporains. Mais pour d'autres, c'est, je dirais, une espérance gagée sur un héritage familial, des ressources, un certain attachement. Et je pense que l'Église a besoin d'avoir des niveaux, des positions spirituelles variées, ou la possibilité en son sein qu'on y occupe des positions spirituelles variées, que c'est bon pour tout le monde, qu'il y ait des représentants de tous les cercles dans l'institution, et pas devenir simplement une petite secte de chrétiens évangéliques hyper motivés, conversionnistes, qui montent sur les tonneaux dans les banlieues. Ça, c'est très bien pour le noyau dur, mais moi, ça ne me va pas, par exemple. Donc, si ça devient ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, maintenir cette diversité interne, c'est un problème pour l'Église, c'est-à-dire trouver le moyen de parler à ces cercles intermédiaires qui vont s'amenuisant, mais c'est aussi un problème pour les membres des cercles en question, c'est-à-dire qui prennent leurs responsabilités. Je trouve souvent le clergé, parce qu'il est trop gentil, il n'ose pas dire aux gens « c'est votre problème, démerdez-vous ». Si vous ne bougez pas, ça disparaîtra. Voilà. Bougez pas, continuez comme ça, et vous aurez, vous verrez se généraliser dans les 15 ou 20 ans, ce qu'on voit déjà se produire. Je termine aussi un peu là-dessus, avec ma conclusion. Cette scène qui m'avait tant frappé, un jour où on m'avait fait lire un rapport sur les équipes d'œil dans les paroisses de France, où on voit ces enterrements, où évidemment toutes les générations de la famille sont rassemblées exceptionnellement dans une situation religieuse qui est devenue relativement rare, ce qui arrive un peu pour les mariages, mais l'enterrement, tout le monde est là. Et on voit très bien ce qui se passe dans beaucoup de familles, c'est-à-dire les petits-enfants dans la nef qui, en enterrant les grands-parents, enterrent les derniers chrétiens de la famille. et qui demandent, et donc le christianisme, dans leur famille, et qui demandent aux chrétiens qui restent de le faire à leur place. Voilà. Ça, c'est un spectacle banal qui, moi, comme Français, comme chrétien, me paraît tragique. Mais, j'allais dire, c'est le problème de tout un chacun. C'est-à-dire que c'est à chacun de voir ce qu'il veut. Bon. Voilà, donc je ne suis pas très optimiste sur, mais je pense quand même que sur le français sur deux ou le 3 français sur 4, il y a moyen d'avoir une discussion en vérité. Moi, je serais les évêques, je leur écrirais à ces Français. Je leur dirais, bon, voilà comment ça marche. Parce qu'on a fait l'analyse de situation. Donc si vous ne bougez pas, on peut vous prédire ce qui va se passer demain ou après-demain. On peut prolonger nos courbes et à 15 ou 20 ans, on vous décrit le scénario, vous serez sorti intégralement. Voilà. Réfléchissez, c'est le moment de réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sachant que tout le monde n'a pas vocation, effectivement, à devenir un chrétien évangélique qui a envie de monter sur les tonneaux. Ça, c'est sûr que non. Et ce n'est pas souhaitable, d'ailleurs.
Cette prise en charge par les laïcs serait une forme de synode.
Peut-être.
Là, vous avez la parole.